Yeah. Dieu est là, j'en suis persuadé. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous attirer à lui. Il est là parce qu'on a besoin de lui. Amen. Nous avons besoin de lui. Moi le premier, nous avons désespérément besoin du Seigneur. Nous sommes désespérément malheureux lorsque nous croyons que nous pouvons faire sans le Seigneur. Quelle erreur! Le Seigneur nous laisse faire quand nous pensons comme cela, mais bien souvent, nous nous cassons le nez et nous faisons tant de tristes expériences qu'il voudrait nous éviter dans son amour. Mais si nous réalisons constamment que nous avons besoin de lui, alors il se révèle à celui qui a faim et soif de lui. Amen. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Quelle parole, rassasiés. Pas seulement les miettes, pas seulement un petit peu. Dieu est le Dieu de l'abondance. Il veut nous rassasier de telle sorte que nous soyons comblés et que nous puissions en retour combler les autres. Amen. Ne l'oublions pas. Quand Dieu nous bénit, ce n'est jamais une fin en soi. Dieu nous bénit pour nous rendre en bénédiction. Toujours. Quand l'Éternel Dieu a dit à Abraham, « Je te bénirai et je te rendrai en bénédiction au monde entier. » La bénédiction du Seigneur est toujours double pour nous et ensuite pour les autres. Si nous sommes dans cet esprit-là, la bénédiction ne cessera de couler sur chacun d'entre nous. Mais bien souvent, nous cherchons la bénédiction égoïstement. En voulant garder cette bénédiction égoïstement pour nous, nous la perdons. Ce que vous gardez pour vous, vous le perdez. C'est ce que vous donnez aux autres, ce que vous avez reçu, que vous conservez. Que le Seigneur fasse de nous des hommes et des femmes avec son cœur à lui. Il a dit lui-même, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Chaque fois que le Seigneur était sur la terre pour faire quelque chose, chaque fois, il ne pensait qu'aux autres, jamais à lui-même, jamais. Que puis-je faire pour les autres? Que puis-je apporter? Il était constamment dans cet esprit-là. C'est ça le ciel. C'est ça le ciel. C'est constamment nous donner au Seigneur et aux autres. Mais l'enfer, c'est constamment penser à soi. Le malheur, c'est cela. Que de vie, même chrétienne, ne tourne qu'autour d'elle-même. Et pourtant, Dieu les a tant bénis. Mais on ne tourne qu'autour de soi. C'est cela l'enfer, mes amis. C'est vivre pour soi. Qu'est-ce que le ciel? Le ciel, c'est renoncer à soi-même pour se donner aux autres, au Seigneur en premier et aux autres après. Parce que quand on se donne au Seigneur, le Seigneur nous donne. Et comme on a beaucoup, on ne peut pas rester comme cela. Comme nos corbeilles sont pleines, Dieu nous dit, je t'ai donné, va maintenant, distribue aux autres ce que tu as donné, ce que tu as reçu. Et plus tu donneras, plus tes corbeilles se rempliront. Alléluia. L'Esprit du ciel, l'Esprit de Jésus, l'Esprit des anges, c'est de renoncer à soi-même et de penser aux autres. Amen. Voilà l'Esprit qui devrait animer chaque chrétien. Les problèmes proviennent soit dans les familles ou dans les églises quand nous pensons d'abord à nous-mêmes. Avant de rechercher les intérêts des autres, ou en utilisant les autres pour satisfaire nos propres intérêts, voilà le comble du malheur. Voilà le comble de la souffrance.
Paul dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, les hommes seront égoïstes. La première des choses qu'il dit, égoïste. Tourner sur soi, c'est pas seulement les gens du monde, mais les chrétiens. Égoïstes, on ne pense qu'à soi. Quand vous pleurez, ils se réjouissent. Quand vous vous réjouissez, ils pleurent. C'est exactement le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Et ils vous disent qu'ils croient à la Bible, encore pas sur le marché. La Bible dit, quand quelqu'un souffre, on souffre avec lui. Quand quelqu'un pleure, on pleure avec lui, n'est-ce pas vrai? Mais eux, ils sont tellement égoïstes, ils ne pensent tellement qu'à eux-mêmes. Quand quelqu'un se réjouit, eux, ils pleurent. Ils pleurent, c'est pas vrai, Seigneur, comment ça se fait, tu les bénis, les autres, et moi? Pas possible! Au lieu de se réjouir avec vous, ils pleurnichent! Et quand vous pleurez, ouais, ils se réjouissent. Ouais, ils disent, ah ça, je l'avais bien pensé, que ça ne durerait pas. C'est bien fait d'ailleurs, et il doit apprendre une leçon celui-là. C'est bien fait. L'autre pleure et lui se réjouit. Et voilà. Voilà comment nous avons la conception de la famille de Dieu. Ça, ce n'est pas la famille de Dieu. La famille de Dieu. Quand un membre souffre, tous souffrent. Amen. Quand un membre se réjouit, tous se réjouissent. Pourquoi cela est-il possible? Parce que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Tant qu'un chrétien vit pour soi-même, il ne pourra jamais vraiment se réjouir du succès des autres. Voilà un vrai test de la spiritualité d'un chrétien, se réjouir du succès d'un autre, des bénédictions d'un autre, se réjouir sincèrement. Sincèrement, je ne dis pas en pleurnichant ou en disant « Ah oui, gloire à Dieu, frère, viens, je suis content. » Mais dans le fond du cœur, je suis content, frère, je suis pas ça, gloire à Dieu. On ne peut pas tenir, impossible, comment? Seigneur, tu l'as béni, lui et moi. Lui, il ne voit rien du tout. Moi, tu vois, je suis le meilleur de l'Église. Ça fait 30 ans que je suis là. Il lui vient d'arriver. Et moi, j'ai rien. Et c'est lui qui reçoit tout. C'est pas normal. Ouais, gloire à Dieu. Je suis d'accord. Je suis content, frère. Par derrière, insupportable. Et puis, on dit aux autres après, ça ne durera pas d'abord. Combien de fois j'ai entendu ça? C'est un feu de paille. C'est un feu de paille, voyez-vous? Quand on est égoïste et orgueilleux, on n'arrive pas à se réjouir. C'est un feu de paille. Si tu te réjouissais un peu plus, sincèrement, ce feu de paille pourrait durer des années. Amen. Tu as une responsabilité aussi là-dedans. Mais si le feu s'éteint, c'est parce que tu as jeté de l'eau. Quand un membre souffre, tous souffrent. Est-ce que tu souffres vraiment quand un membre souffre? Est-ce que tu souffres vraiment? Est-ce que tu as de la peine? Ça révèle une maturité spirituelle, mes amis. Est-ce que tu as de la peine quand quelqu'un a de la peine? Ou alors, secrètement, tu te réjouis. Quelle tragédie! Que le Seigneur nous aide à grandir spirituellement. Et à mettre de côté cet égoïsme qui est dans ce monde et qui fait partie aussi de notre nature charnelle, que nous puissions vraiment dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je veux m'oublier moi-même et ne vivre que pour toi. Que de libération, nous verrions. Que de transformation, nous verrions. Que de transformation dans ta propre vie, dans ton propre foyer. Si tu cesses de penser d'abord à toi, ou d'exiger aux autres qu'on pense d'abord à toi. Certains chrétiens ont toujours la révélation que c'est les autres qui doivent s'occuper d'eux. Mais n'ont jamais la révélation qu'ils devraient s'occuper des autres aussi.
Seigneur m'a montré que tu devrais faire ceci pour moi, tu devrais faire ceci. En plus, ils ajoutent, le Seigneur m'a dit que, oui, ça fait bien, et puis ça donne un peu plus d'autorité. Mais eux-mêmes, le Seigneur ne leur montre jamais qu'ils devraient un peu s'occuper des autres. Se sacrifier, renoncer, ça, jamais. Ils n'ont jamais cette révélation-là. Ça ne leur vient pas à l'esprit. Mais alors, attention, le Seigneur m'a montré que tu devais faire ceci pour moi. Quelle tragédie. Tout cela pourquoi, mes amis? Parce que l'égoïsme est là. On ne vit que pour soi. Que pour soi, quelle tragédie. Et les bénédictions que Dieu veut donner, mes amis, Dieu aime bénir son peuple. Amen. Dieu aime. Oh, comme il aime bénir. Comme il aime bénir. Mais il veut que nous sachions une chose, c'est qu'en nous bénissant, il veut que nous soyons une bénédiction aux autres après. Que ce que nous avons reçu, que nous puissions l'apporter. Quand Jésus a délivré ce possédé de Gadara, le possédé libéré a dit, « Maître, je veux rester avec toi. » Le Seigneur lui a dit, « Non, va. » Va vers les tiens et dis-leur les grandes choses que le Seigneur a faites pour toi. Va, dis-leur. Voyez-vous, il ne voulait pas qu'il reste là près de lui, à rester toute sa vie comme ça. Tu as été béni, va maintenant. Sois une bénédiction aux autres. Alléluia. Quelle libération lorsque nous cessons de vivre pour nous-mêmes. Quelle libération, mes frères, mes sœurs. Alléluia. Comment vivre cette vie de bénédiction? J'aimerais vous donner quelques pensées ce soir sur une vérité importante dans la vie chrétienne. Et cela nous concerne tous. Comment la nécessité de marcher dans la lumière. Si nous voulons que cette bénédiction vienne sur nous et que nous gardions cette bénédiction et que nous puissions aussi la communiquer, il est indispensable que nous marchions dans la lumière. Amen. Parce que Dieu est un Dieu de lumière. Nous parlons souvent que Dieu est amour, et c'est vrai. Mais nous oublions parfois que Dieu est lumière. Ça peut nous déranger un petit peu. Parler que Dieu nous aime, ça nous arrange toujours, n'est-ce pas vrai? On aime entendre cela, et c'est bien, et il faut. Mais n'oublions jamais que Dieu est aussi lumière. Que son amour est un amour qui se manifeste dans la lumière. Ce n'est pas un amour qui ferme les yeux et qui dit « tu peux faire ce que tu veux, je t'aime encore, je t'aimerai toujours, jamais ». Une telle pensée n'est pas biblique. Le Dieu d'amour est un Dieu qui vit dans la lumière, qui veut que nous vivions dans la lumière. Parce que nous sommes enfants de lumière, n'est-ce pas vrai? Et c'est pourquoi, si nous comprenons cette vérité, la nécessité de marcher dans la lumière, mes amis, devant Dieu et devant les hommes, notre vie chrétienne sera comme un fleuve qui coulera de notre sein et qui bénira, rafraîchira, désaltérera des multitudes. Alléluia! La nécessité de marcher dans la lumière. Nous allons lire un passage dans la première épître de Jean, au chapitre 1er. C'est un passage que vous connaissez tous bien, mais il est bon de le relire, du verset 5 au verset 10. 1 Jean 1, verset 5 à 10. La nouvelle, voici ce que Jean dit, lui qui a parlé tant de l'amour du Seigneur, n'est-ce pas vrai? Et voilà maintenant qu'il apporte une nouvelle révélation de l'amour de Dieu. Cet amour n'est pas un amour aveugle. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui, de qui ? De Jésus. Quelle nouvelle a-t-il appris ? Et que nous vous annonçons, voyez-vous ? On reçoit, on annonce. On ne peut pas recevoir sans annoncer. Nous avons reçu et nous vous donnons. C'est pourquoi il pouvait recevoir et toujours donner. Plus nous donnons ce que nous recevons, plus nous donnera, plus Dieu nous donnera pour que nous puissions donner. Alléluia. Amen. C'est sans fin, sans fin. Plus nous donnons ce que nous avons reçu, plus nous, Dieu nous donnera. Pour parce que nous donnons. Mais si nous cessons de donner, Dieu cesse de donner. À quoi cela sert-il de, que Dieu vous donne? Si vous voulez garder ça pour vous-même, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais si Dieu voit en vous quelqu'un qui donne, Dieu donnera. Et vous serez étonné. Allons un peu plus loin. Et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et le texte original dit, et le sang de Jésus, son Fils, continue de nous purifier de chaque péché. Parce que nous mettons toujours tout à la lumière. Il n'y a que ce qui est mis à la lumière qui est purifié. Le reste n'est pas purifié. Si nous disons, au verset 8, que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Que Dieu bénisse sa parole. La nouvelle que nous avons apprise et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Voilà la première révélation de Dieu que Jean apporte dans son épître. Que Dieu est lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Et nous sommes appelés à vivre en communion avec un Dieu de lumière. C'est pourquoi la vie du chrétien doit être une vie vécue dans la lumière. Alléluia. La droiture, l'intégrité, l'honnêteté dans la lumière. Et vous savez, ça se voit quand quelqu'un vit dans la lumière. Quand quelqu'un marche droit, son regard, son attitude, ses paroles, tout révèle qu'il marche dans la lumière. Dieu nous exhorte les uns et les autres, mes amis, à marcher scrupuleusement dans la lumière, si nous voulons une vie chrétienne victorieuse, parce que notre Dieu est un Dieu de lumière, ne l'oublions pas. C'est-à-dire qu'il n'acceptera absolument pas les choses cachées des ténèbres. Il ne fera jamais de compromis avec nous, avec toutes ces choses impures, à double sens, avec, à toutes ces choses qui sont du monde. Et sous prétexte que Dieu est amour, que, eh bien, nous pouvons continuer comme cela. Non, mes amis. Dieu est amour, mais il agit dans la lumière. Quand vous aimez votre enfant, vous aimez que votre enfant soit dans la lumière à votre égard, n'est-ce pas vrai? Vous l'aimez tellement. Et pour que cet amour soit vraiment un amour réel, authentique entre vous,
il faut que la lumière soit parfaite, n'est-ce pas vrai? Et chaque chrétien doit apprendre à vivre dans la lumière devant Dieu. Quand nous apprenons à vivre dans la lumière devant Dieu, alors nous vivrons dans la lumière avec notre prochain, avec notre frère et notre sœur, avec notre mari, avec notre femme, avec nos enfants. Pourquoi bien souvent, même les chrétiens ne marchent pas dans la lumière à l'égard de leurs frères et de leurs sœurs, et même des membres de leur famille? Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent pas dans la crainte devant Dieu et dans la lumière devant Dieu. Tout ce qu'ils font, c'est par crainte de l'homme. Et tant qu'ils ne se font pas prendre, ils continuent. Le jour où ils se font prendre, pardon. Mais au bout de quelques temps, ça recommence. Ils demandent pardon uniquement parce qu'ils se sont fait prendre, c'est tout. C'est la crainte du gendarme. C'est la crainte de se faire attraper. Mais il n'y a pas la crainte de Dieu. Ce matin, dans notre méditation avec mon épouse, nous lisions une toute petite histoire qui correspond bien à ce que je vais vous dire. C'est l'histoire d'un papa qui n'était pas chrétien, qui a emmené sa petite fille dans la campagne. Et arrivé à un moment donné, il s'arrête, il descend de la voiture et il dit à sa fille, il y avait un petit muret, il monte sa petite fille sur le petit muret et il lui dit, voilà, tu restes bien ici, tu restes bien là en haut et tu vas bien regarder les voitures qui arrivent à droite et à gauche. Et moi, pendant ce temps-là, il avait repéré un petit jardin où il y avait des légumes. Ça ne lui appartenait pas. Mais il a dit, puisque c'est là au bord de la route, on peut se servir. Alors il a dit à sa petite fille, tu regardes bien, hein? Tu regardes bien à droite, à gauche, pendant que moi, je ramasse les légumes. Alors, pendant qu'il ramassait ses légumes, il dit à sa petite fille, « Alors, tu vois rien ? À droite ? Non, papa, je ne vois rien à droite. Et à gauche ? Non, papa, je ne vois rien. Regarde aussi derrière ! Derrière toi, dans le champ derrière ! Papa, je ne vois rien. Il n'y a rien, papa, il n'y a rien. » Mais la petite fille dit, « Mais papa, on n'a pas regardé partout. »« Mais comment? Je t'ai dit de regarder partout. » « Mais on n'a pas regardé partout, papa. Mais je t'ai dit de regarder partout. » La petite fille a dit, « Mais papa, il y a un endroit que j'ose pas regarder, c'est au ciel. Est-ce que tu ne crois pas que Dieu nous voit? Est-ce que tu ne crois pas que Dieu nous voit ?» Quand cet homme a vu la réaction de cette petite fille, il a dit, « Allez, viens vite, je vais te prendre. » Il a laissé ses légumes par terre, il est rentré à la maison. Ça l'a guéri pour toujours. Il a compris que si les hommes ne nous voient pas, Dieu, lui, nous voit. Amen. Et c'est quand il a été conscient de cette réalité-là, que son attitude à l'égard des hommes a changé. Et c'est ce que Dieu voudrait nous faire réaliser. Si nous ne marchons pas dans la lumière, ce n'est pas parce que l'un ou l'autre ne vous voit pas que Dieu ne vous voit pas. Et que vous pouvez continuer la fête comme cela pendant longtemps. Parce que on ne vous voit pas. Mais Dieu nous dit, mon enfant, si les autres ne te voient pas, moi je te vois. Et tu dois marcher dans la crainte de mon nom, dans la lumière devant ma face. Amen. Mes amis, écoutez-moi bien, c'est capital. C'est capital. Dieu est un Dieu de lumière.
Ça veut dire que la lumière est là pour révéler les choses cachées. Que Dieu n'acceptera jamais de cacher le péché comme cela. Vous savez vous-même que dans l'Épître aux Corinthiens, Paul dit à un moment donné, concernant le péché de certains chrétiens, il dit certains chrétiens ont un péché qui se voit tout de suite. Mais d'autres, ils savent très bien le cacher. Mais plus tard, à la longue, ça vient à la lumière. Plus tard, ça vient à la lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons jour après jour, mes chers amis, vivre dans la lumière devant Dieu. Amen. Et c'est là le secret d'une vie chrétienne victorieuse. Lorsque nous avons conscience d'avoir péché en pensée, en parole ou en action, nous devons immédiatement confesser notre péché à Dieu. Notre conscience doit être si sensible que nous ne pouvons plus rester tranquilles lorsque nous avons commis un péché. Il y a des chrétiens qui commettent des péchés. Ça ne leur fait rien. Alléluia, ils chantent même. Gloire à Dieu, alléluia. On a l'impression que ça ne leur fait pas de peine. C'est un très mauvais signe spirituel lorsqu'un chrétien pêche et ne ressent pas dans son cœur une souffrance, une douleur qui lui dit « C'est mal ce que tu fais. Abandonne, confesse. » La Bible dit bien ici « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus son Fils » continue de nous purifier de chaque péché. Cela veut dire que dès que nous avons conscience d'avoir péché, même la moindre pensée mauvaise doit être amenée à la lumière. Seigneur, purifie. Seigneur, purifie. Et instantanément, le sang de Jésus vous purifie. Mais si nous pouvons dire n'importe quoi, n'importe quoi à sa femme ou à ses enfants ou à son frère, avec sa soeur, n'importe quoi. Et puis, alléluia, alléluia, on injurie son frère ou sa soeur et puis après on vient bénir le Seigneur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Et Dieu n'accepte pas une telle louange et une telle adoration. Dieu est un Dieu de lumière. Amen. Si chaque chrétien comprend bien cela, alors il y aurait des merveilleuses délivrances spirituelles. Que de choses se passeraient. Mes amis, écoutez-moi bien. On peut comparer la nature du chrétien, quand il est né de nouveau, à la nature d'un petit agneau. Vous êtes d'accord avec moi? Et à notre ancienne nature, vous savez à quoi on peut la comparer? Autre chose qui n'est pas trop beau, mais c'est la vérité. Un petit cochon. Ah oui. Notre vieille nature est bien comparable à un petit cochon. Un petit cochon. Et notre nouvelle nature, un petit agneau. Et vous allez voir que ces deux animaux ont des réactions tout à fait différentes quand, par exemple, l'un ou l'autre se salit, marche dans la boue. Avez-vous remarqué, un petit cochon, vous allez beau le laver et vous lui dites maintenant, tu vas bien rester bien propre. Je ne sais pas comment ils font, il y en a qui pourraient mieux faire que moi. Alors, vous faites confiance. D'accord. Petit cochon sort de la maison. Où est-ce qu'il va aller? La première chose qu'il va faire, il regarde. Il y a de la boue par là-bas. La saleté. Direction là-bas. Et une fois qu'il... quand il est là-dedans, il est heureux. Voilà, vous pouvez le laisser des heures là. Vous êtes d'accord avec moi? Des heures il resterait. Ça sent mauvais, il y a tout qui va pas. Mais il est heureux là-dedans. Et pourtant vous l'avez bien lavé avant. Mais... pourquoi il est heureux là-dedans, dans ce qui est sale? Pourquoi? C'est sa nature, vous êtes d'accord? C'est sa nature. Mais le petit agneau, c'est différent. Quand on est chrétien, Dieu nous donne cette nature de l'agneau. Et quand l'agneau se promène comme cela, puis je ne sais pas si par erreur ou mégarde, d'un seul coup l'agneau met la patte dans un endroit sale, dans de la boue, que fait l'agneau? Tout de suite, l'agneau retire sa patte. Tout de suite, l'agneau ne peut pas supporter la moindre saleté et fait tout pour s'éloigner de tout ce qui est sale. Vous voyez où l'agneau, dès qu'il y a un contact avec ce qui est sale, il ne se plaît pas là-dedans. Dès qu'il y a le contact, il y a comme quelque chose en lui qui rejette cela, qui repousse cela. C'est sa nature. Et qui dit, oh là là, non, ça ne me plaît pas, ça. Par erreur, je suis tombé là-dedans, mais je ne peux pas me plaire là-dedans. Et il fait tout pour s'en éloigner. Ça, c'est la nature de l'agneau. Et ça, c'est la nature du chrétien. Quand un chrétien pêche involontairement, parce que quand le chrétien pêche, il ne pêche plus volontairement. Vous êtes d'accord avec moi? Le péché pour un chrétien n'est plus une habitude. Pour le non-chrétien, le péché était une habitude. Vous êtes d'accord avec moi? Avant d'être chrétien, on péchait par habitude. Mais pour le chrétien, maintenant, le péché n'est plus une habitude. Le péché est un accident. Avant, c'était volontaire et maintenant, c'est involontaire. Amen. Et même si parfois... On pense que c'est un peu volontaire, voyez-vous, parce qu'on peut des fois, on peut être séduit, trompé comme cela, mais on ne reste pas. Vous êtes d'accord avec moi? On ne reste pas, on ne peut pas tolérer cela, parce qu'on est enfant de lumière, et parce que Dieu est un Dieu de lumière, et que le Saint-Esprit en nous est un esprit de sainteté, un esprit saint. Et un esprit saint n'habitera jamais avec quelqu'un de souillé, qui se plaît dans la souillure, jamais. La nature de l'agneau. Dès que l'agneau se souille, il fuit loin de la saleté. Il va dans un endroit plus sûr. Dès qu'un chrétien pêche, il se sent repris. Je vous dis franchement, un chrétien qui pêche, et qui continue de pécher, et qui n'est pas repris dans son péché, dans son cœur. Et il faut que ce soit les autres qui disent ceci et cela, je doute de la conversion d'un tel chrétien. C'est pas normal! Et en général, quand ces gens se repentent, on se repent parce que c'est tel frère ou l'autre qui le dit. Mais eux-mêmes, ils n'en sont pas conscients! Il faut se demander de l'authenticité de la conversion de cette personne. Mais quand le Saint-Esprit est en nous, mes amis, et qu'on aime le Seigneur, et qu'on a décidé de marcher loin du péché, loin du monde, loin des souillures du monde, alors le Saint-Esprit en nous dit, mon enfant, confesse ton péché. Saint-Esprit en nous ne nous dit jamais, c'est rien du tout, c'est rien du tout. Ça, c'est le diable. Ça, c'est notre nature humaine. C'est rien du tout, c'est rien. Les autres font pire que toi. Les autres font pire que toi, alors. Et en général, c'est comme ça. Quand on dit à quelqu'un que tu fais mal, de toute façon, regarde les autres, c'est pire. Ah bon? La norme, c'est les autres? Ou c'est la parole de Dieu? Qui est ton exemple? L'exemple, c'est la parole de Dieu. Et c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Mes amis, ce que je vous dis là, ce sont les vérités de base de l'Évangile. Mais je crains fort que beaucoup de chrétiens, même après des années de conversion, n'ont pas encore compris ces vérités de base. Et voilà pourquoi il y a tant de difficultés. Un jour, un pasteur et quelques anciens, ils devaient avoir un service de baptême. Et ils devaient baptiser une jeune fille aussi, une demoiselle. Mais comme elle était assez jeune, disons 16, 17 ans, comme ça, alors ils se demandaient si vraiment elle était convertie. Ah, ils se posaient des questions, mais est-ce qu'elle est vraiment convertie? Est-ce qu'on va la baptiser? Alors ils étaient là en train de douter et tout ça. Mais alors, la jeune fille voyant cela, elle a appelé les responsables, elle a dit, écoutez, je vois que vous avez un peu de la peine, bon, je vous comprends, enfin, à voir si c'est sincère, ma décision. Alors elle a dit, écoutez ceci, autrefois, lorsque j'étais païenne, inconvertie, je courais derrière le péché. Mais maintenant, je fuis loin du péché. Le pasteur a dit, viens vite ici, toi-même, tout de suite, je t'enfonce dans l'eau. Toi, tu as compris quelque chose. Tu as compris quelque chose. Tu es prête. Est-ce qu'elle était prête? Oui, elle était prête. Amen. Autrefois, je courais derrière le péché. On était tous comme ça, vous êtes d'accord avec moi? Péché, allez, vite, on courait, allez. Voilà, la moindre chose qui brillait un petit peu, allez là, allez, voilà. Mais maintenant que nous sommes au Seigneur, on fuit loin du péché. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis. C'est pas. Maintenant, je raisonne avec le péché. Certains disent, maintenant, moi, je suis fort. Je peux lutter contre le péché, moi. Vous ne me connaissez pas. Je peux aller jusqu'à la limite, parfois. Je peux aller même là où c'est un peu dangereux, mais moi, je suis fort. Tu es fort. Tu ne sais pas que tu n'as pas de force. Tu ne sais pas que tu es déjà séduit. Tu ne sais pas que le péché est trompeur. C'est comme un serpent. Tu ne le sais pas. Et combien sont tombés dans le péché et ne se sont plus jamais relevés. Ou d'autres se sont relevés, mais avec des blessures, des meurtrissures. Le chemin biblique pour vaincre le péché, c'est de le fuir. Amen. Le fuir. Le fuir. Il faut du courage et de la force pour fuir. Amen. Et non pas faire les malins, dire ah ouais, moi, je peux braver n'importe quoi. Non. Il faut faire comme Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Quel bel exemple. Quel bel exemple. Quand cette femme-là, la séductrice, viens, il n'est pas là mon mari, viens avec moi. Non, comment pourrais-je pécher, voyez-vous, regardez ce qu'il a dit, pécher contre mon Dieu et faire contre mon Dieu un aussi grand mal. Regardez ça. Il ne dit pas contre elle ou contre le pharaon, mais il dit contre qui? Contre son Dieu. Voyez-vous pourquoi il avait une bonne attitude à l'égard de son prochain? Parce qu'il avait une bonne attitude à l'égard de Dieu. Il y avait la crainte de Dieu dans sa vie. Amen. La crainte. Comment pourrais-je? Ton mari n'est pas là, mais Dieu est là. Mon Dieu est là. Il voit. Et tu peux faire ce que tu veux. Jamais je n'irai. Ah ouais, c'est fâché, vous connaissez l'histoire. Ah, tu veux pas. Alors il a fui, et puis alors il a sauté dessus, et puis il a arraché les vêtements. Voilà, le voilà, le voilà. Ça y est. Eh, les accusations, en vrai. Eh, ça y est, la preuve, voyez-vous la preuve? Ah. Il y en a qui ont des preuves, mais ils n'écoutent pas toute la vérité. Il y en a qui vous apportent des preuves sur des faits, mais ils n'écoutent pas toute la vérité. Alors, c'est plus des preuves, ça, c'est des excuses. Amen. Les preuves qu'on apporte, c'est quand on a tout entendu. Et premièrement, l'accusé. Pas les accusateurs. Ils vous raconteront n'importe quoi. Amen.
Et j'ai remarqué que les accusateurs, quand ils se mettent à accuser, ils parlent avec conviction aussi. Oh là, il faut que ça fiche, j'ai jamais... Vous savez, on a fait de drôles expériences, nous aussi, avec les accusateurs. Les gens tombent dans le panneau, comme si c'était des paroles de l'Évangile, ça venait de Dieu. Convaincus et tout. Mais ils ne disaient pas toute la vérité. Et il n'y a que ceux qui n'aiment pas la vérité qui tombent dans le panneau. Il n'y a que ceux qui n'aiment pas la vérité, qui sont comme eux, qui tombent dans le panneau. Les gens qui aiment toujours les demi-vérités, ce sont ceux-là qui écoutent ces choses. Mais celui qui aime la vérité, je vais écouter l'autre. Je vais écouter l'accusateur. Amen. L'accusé. Je vais écouter l'accusé. Pourquoi Joseph n'est pas tombé dans le panneau, mes amis? Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Quel bel exemple, vous êtes d'accord avec moi? Quel bel exemple. Voilà pourquoi Joseph est un type extraordinaire. Un exemple extraordinaire. Il a fui et après Dieu l'a honoré. Amen. Dieu l'a honoré. Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Ne l'oubliez pas. Tandis que ceux qui ravissent l'honneur aux autres comme cela, par la tromperie, par la ruse, ça ne durera pas longtemps. Mais ceux qui craignent l'Éternel, Dieu les bénira, Dieu les gardera et Dieu les honorera. Amen. Amen. Mes amis, c'est cela, marcher dans la lumière. Pourquoi est-ce qu'on a de la peine à marcher dans la lumière avec notre prochain, avec notre frère, notre sœur? Parce qu'on ne marche pas dans la lumière avec Dieu. Parce qu'on laisse tout passer. On sait que des choses sont mal, mais tant qu'on ne se fait pas prendre, c'est bon, on continue. Je ne me suis pas fait prendre encore. Très bien, alléluia, on peut encore chanter. Continuons, continuons. Et personne ne sait rien du tout. Dieu sait tout. Et rien que cela devrait suffire, n'est-ce pas vrai? Rien que ça. Dieu le sait. Pardon, Seigneur. Alors là, la repentance est sincère, profonde. Vous n'avez pas besoin d'harceler la personne. Allez, confesse, confesse, confesse. La personne elle-même qui pleure et qui dit « Oh mon Dieu, plus jamais je ferai cela !» Voilà ce qu'il nous faut, marcher dans la lumière. Vous ne croyez pas que c'est important? Marcher dans la lumière devant Dieu. Il faut donc cesser de jouer à cache-cache. Marcher dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Et nous serons mutuellement en communion. Et le sang de Jésus nous purifiera de chaque péché. Amen. Et le Seigneur, nous purifiant de tout ce que nous confessons, que nous ne voulons rien garder en nous. Dans la confession, il y a toujours l'abandon. Attention, quand il est parlé de confession ici, c'est jamais confesser pour recommencer. Hein. Est-ce que c'est cela? Jamais. Dans la Bible, quand il est parlé de confession, c'est toujours je confesse et j'abandonne. Je confesse et je hais mon péché. Je confesse et je change. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu n'attend qu'une chose. Il attend cette droiture, cette sincérité de vivre dans la lumière. Il n'a qu'un désir de nous purifier, de nous laver. Amen. De nous laver. Il veut que nous soyons purifiés et que nous soyons en communion avec lui. Et en étant dans une communion avec lui, nous serons automatiquement en communion avec les autres. Amen. Mais si notre communion avec Dieu est entachée, notre communion avec notre frère, notre prochain, sera entachée aussi. Ne l'oubliez jamais. Et même s'il y a une apparente communion avec l'autre, tant que notre communion avec Dieu n'est pas sincère dans la lumière, c'est de l'hypocrisie, c'est du cinéma. C'est du cinéma devant Dieu. Comment commettrais-je un aussi grand péché devant mon Dieu? Voilà l'attitude que nous devons tous avoir, moi le premier. Devant Dieu. Alors nous marcherons dans la lumière, devant le Seigneur, et nous marcherons dans la lumière devant les autres, dans l'humilité, la purification, et après, quelle liberté, quelle joie, alléluia, quelle louange après, quelle louange, quelle liberté, parce que nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Mes chers amis, que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes des enfants de lumière. Dieu est un Dieu de lumière. L'Esprit Saint en nous est un Esprit Saint. et Jésus est la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Puissions-nous être des hommes et des femmes qui marchent dans la lumière, devant Dieu. Et automatiquement, nous marchons dans la lumière, devant les autres. Et alors, dans cette lumière, les anges nous accompagneront. Alléluia. Le Saint-Esprit sera content. La présence de Dieu vous accompagnera. C'est le chemin de la plénitude, de la bénédiction. Alléluia. Puissions-nous avoir cet esprit de l'agneau, amen, qui ne peut supporter le péché. Dès qu'on a fait une faute, le confesser, l'abandonner. Et le sang de Jésus nous purifie. Et Dieu nous regarde comme si nous n'avions jamais péché. Quelle merveille, quelle grâce. À lui soit la gloire, dès maintenant et à jamais. Amen.
Priez de tout votre cœur, là où vous êtes, reconsacrez-vous au Seigneur, reconsacrez-vous de tout votre cœur, puisque le Seigneur est là, alléluia,
alléluia.
Le Seigneur entend ta prière, il entend la prière qui vient du cœur.
Par ton esprit en moi, semblable à toi,
te ressembler, Jésus. Alléluia, Seigneur.
À ton nom.
C'est merveilleux.
C'est notre prière, Seigneur. C'est ma prière, Seigneur. Te ressembler. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire au Seigneur.
Toujours
de
amen, amen.
Amen,
alléluia. Gloire à toi, Seigneur.
Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia.
Alléluia.
Alléluia, ma langue de guérir par la
ton esprit.
Alléluia. Levez vos mains, vous qui êtes devant, en signe de consécration au Seigneur maintenant. Levez vos mains. Seigneur Jésus, tu bénis ton peuple. Tu visites ton peuple. Tu touches ton peuple. Tu purifies ton peuple. Tu relèves ton peuple. Tu transformes ton peuple. Tu en fais de véritables disciples. Prions tous, nous allons prier pour vous, priez à votre place. Seigneur Jésus, nous te prions maintenant de visiter ton peuple. Visite, Seigneur, purifie, console, relève, mets l'esprit d'obéissance, de consécration. Tu connais les cœurs, Seigneur, attire à toi, tu attires à toi, tu agis, Seigneur, tu bénis celui qui se donne. 100% à toi.
Alléluia.
Tu ne rejettes personne. Tu as un plan d'amour pour chacun. Un plan d'amour. Je veux que ton plan se réalise, Seigneur, dans ma vie. Dites, Seigneur, je veux que ton plan se réalise. Je veux faire ta volonté, coûte que coûte. Je veux ton sceau dans ma vie. Je veux obéir. Je veux me donner 100%. Je ne suis plus à moi-même. Mais je t'appartiens, Seigneur. Mes yeux, ma bouche, mes mains, mon corps est pour toi, Seigneur. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Remplis-moi à nouveau.
renouvelle-moi, remplis-moi du Saint-Esprit, pour ta gloire, pour ton service, alléluia, pour ton service et pour ta gloire. Rien pour moi, Seigneur, je vais être fidèle dans les petites choses, dans les petites choses. Je vais être fidèle à ta parole. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Offre ta vie sur l'autel comme un vrai sacrifice. Alléluia.